Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette avec vous sur Accès libre. Écoutez, aujourd'hui, c'est une émission qui roule beaucoup. On va essayer d'oublier ces moments difficiles que les gens de Québec, que toute la communauté québécoise vit. Et on va parler santé. Pourquoi pas, hein? Parce que ça va sûrement mieux. Non. En fait, aujourd'hui, on discute réforme ou contre-réforme. Et avec nous, pour le faire, des gens très engagés dans la santé. Mireille Tremblay, chercheuse et professeure associée à l'UQAM, et aussi Jacques Benoît, organisateur communautaire de la Coalition Santé et Société. Donc, ces deux personnes étaient parmi les gens qui ont proposé un débat cette fin de semaine sur la réforme, pour ou contre. Entre les deux, il y aura évidemment toutes sortes de services ou d'informations pour vous, gens qui voyaient peut-être un peu moins, qui présentaient des difficultés à la lecture, mais vous trouverez votre compte. Et dans quelques instants, Mme Diane Lamarre, qui est la vis-à-vis du docteur Régent Barrette en santé, députée de Taillon, porte-parole en matière de santé, d'accessibilité aux soins et de soutien à domicile. Tout ça sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Avec nous, elle est la vis-à-vis. En chambre, dans la vie, peut-être pas toujours dans les idées, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, d'accessibilité aux soins et en soutien à domicile, Diane Lamarre. Bonjour, Mme Lamarre.
Bonjour, M. Racette.
Merci d'être avec nous.
Ah, c'est un plaisir. Merci de me donner la possibilité d'échanger avec vos auditeurs sur ce sujet important que sont les frais accessoires.
Ben écoutez, il y a bien sûr les frais accessoires, il y a le chaos en santé que vous avez dépeint. Peut-être qu'on pourra aborder les deux questions, elles sont importantes, mais j'aimerais revenir d'abord sur ce que vous avez dit la semaine dernière. Vous avez demandé au docteur Gaétan Barrette, mais aussi à tout le Québec, une pause dans toutes ces réformes. Pourquoi vous avez tenu de tels propos?
Exactement, parce que on n'a jamais procédé à ce que le ministre appelle une réforme et que beaucoup d'organismes maintenant appellent une contre-réforme, sans avoir des mécanismes d'évaluation périodiques sur l'impact de ces modifications faites de façon unilatérale par le ministre. On va bien s'entendre. Jamais il n'appuie ses décisions sur des documents de réflexion, sur des analyses ou même sur des mouvements de regroupement de citoyens ou même des données scientifiques.
Alors, Madame Lamarre, est-ce que vous avez l'impression que le docteur Régent Barrette pense cette réforme-là dans sa tête et avec son équipe proche?
Moi, je pense qu'il la conçoit, il a une vision qui vise d'abord clairement, parce qu'on le voit quand on analyse ça de façon systématique, la privatisation d'un très grand nombre de services en santé.
C'est ça l'objectif.
Il ne le dit jamais. Il devrait avoir la loyauté de dire, écoutez, moi, je pense que le gouvernement ne devrait pas payer tant que ça. Et la preuve, c'est qu'il coupe constamment de l'argent dans les hôpitaux, dans les services sociaux, dans la santé mentale, il n'investit rien et il trouve toujours de l'argent pour des super cliniques privées, pour plein d'initiatives qui relèvent du privé. Alors, comment on peut expliquer ça autrement? Et il faut arrêter de regarder, je vous dirais, morceau par morceau ce qu'il fait. Regardons l'ensemble de l'œuvre. Et dans l'ensemble de l'œuvre, sa première mission, c'était d'améliorer l'accès et il ne le fait pas.
Oui, il livre pas la marchandise, en tout cas pour les usagers, les usagères, c'est ce qu'on sent. Mais vous avez identifié aussi, à l'instar de la PTS puis de d'autres syndicats, que ça se fait sur le dos des professionnels aussi. Les professionnels sont épuisés.
Absolument. Et ça, là, je peux vous dire, moi, vous savez, quand on est responsable de l'opposition en santé, comme je le suis, les gens viennent témoigner et ce ne sont pas que des pressions ou des représentations d'organismes, de syndicats, parce que le ministre aime bien blâmer les syndicats. Il y a cette représentation-là qui est objectivée par les syndicats et heureusement parce que tous les autres organismes ont été abolis par le ministre, ceux qui avaient la possibilité de nous donner des analyses, des chiffres. chiffres, mais j'ai aussi beaucoup de citoyens, de préposés qui ont remis leur démission et qui viennent encore me dire « c'est incroyable, la pression qu'on nous met, on nous empêche de travailler conformément à notre éthique, à notre code de déontologie. Mmh. » Les professionnels qui sont soumis à des obligations déontologiques de leurs ordres nous disent « c'est impossible. » Quand on demande à des préposés de nourrir 12 personnes au lieu de 6 personnes, c'est pas humain.
Non.
Et comment aussi, dans une perspective où le ministre est l'employeur de 300 000 personnes, parce que dans le réseau, on a 300 000 personnes, comment un employeur peut prévoir qu'il va rendre l'organisation dont il est responsable plus performante quand il y a 60 % de ses employés qui sont épuisés,
oui,
qui sont en détresse psychologique?
Oui, parce qu'il faut bien expliquer aux gens ce que ces professionnels-là font. Ce ne sont pas des chars, comme dirait un autre. Il s'agit de passer du temps de qualité avec les gens afin de leur prodiguer des soins. Et donc, si on les rend pratiquement invalides, et puis, s'ils sont épuisés, ils ne peuvent plus faire ce service-là.
On sent, je vous dirais, M. Rassette, un désintéressement du ministre pour tout ce qui concerne des soins qui nécessitent de l'attention humaine, qui nécessitent du temps. Pour lui, la santé, c'est mécanique. Il faut que ça se coupe, si c'est une chirurgie, si c'est un scan, ça c'est de la santé, c'est de la maladie pour lui, mais le système de santé, c'est beaucoup plus vaste que ça.
Bien sûr.
Et les problèmes,
c'est les services
de santé... Exactement,
aussi, ouais.
Santé et services sociaux, et ça, il s'occupe jamais des services sociaux, mais soigner quelqu'un et le rendre mieux, ça inclut également une foule d'autres dimensions. Les enjeux de santé mentale, on le voit, il investit pas en santé mentale, le soutien à domicile, alors toutes ces dimensions-là, pour lui, ce sont des dimensions qu'il néglige. Et vraiment, il fait preuve de négligence. Il fait exprès pour créer de la confusion, pour créer des disputes entre les groupes. Mmh. Alors, vraiment, la préoccupation d'améliorer l'accès, qui était sa première mission. Tout le monde aime notre système de santé publique.
Oui, mais il est important, surtout.
Les Québécois y tiennent.
Voilà, il a été conçu par... c'est un peu petit là, pour exprimer ce que c'est, mais toute une génération y a travaillé dans son caractère universel aussi, il a été déployé. Mais donc, j'aimerais revenir sur les frais accessoires. Maintenant, vous l'avez énoncé d'entrée de jeu de notre entrevue. Évidemment, depuis le 26 janvier, et un peu, et beaucoup, à cause de pression de la FADOC, de la société civile, le docteur Régent Barrette a aboli les frais accessoires. Mais comment ça se passe, là? On sent un chaos. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que les gens vont vraiment arrêter de payer pour certains frais comme ça en clinique?
Mais d'abord, il faut se souvenir que le ministre Gaétan Barrette ne voulait pas abolir les frais accessoires. Il voulait les maintenir. Il voulait que les médecins, surtout les médecins spécialistes, continuent de recevoir de l'argent des citoyens, ce qui était contraire à l'assurance médicale.
Bien sûr.
Alors, il a décidé en mai, et là, on voit de mai à aujourd'hui, il y a eu quand même 6 mois, et il n'a pas fait ses devoirs. C'est pendant ces 6 mois-là qu'il aurait dû rencontrer les groupes, négocier pour que, à l'entrée en vigueur, tout soit coordonné, tout soit clair, tout soit bien réfléchi.
Bien.
Là, il y a eu énormément de négligence, et tout ça apparaît sur le terrain. On se demande, dans bien des cas, comment ça va être réellement interprété sur le terrain, comment ça va se positionner. Mais il reste que, où le ministre a été fautif, vous l'avez dit, la FADOC, moi, quand j'ai défendu, je me suis opposée aux frais accessoires, j'avais la FADOC, l'Association des retraités, des grands groupes syndicaux, la CSN, la CSQ, Coalition Solidarité Santé, trois organismes de médecins. Il y avait des médecins de famille aussi qui s'opposaient à ça. Et un regroupement de 8 organisations de personnes âgées qui totalisaient 500 000 de patients.
Ouais.
Alors, quand le ministre dit « ce sont des pressions populaires et réfléchies », je m'excuse, mais là, il y a des gens intelligents à part lui au Québec et il y a des gens qui sont capables d'avoir une réflexion.
Bon.
Et de toute évidence, l'ensemble de la législation et des gouvernements considèrent que les frais accessoires étaient des abus non cohérent.
Et surtout qui allait contre le droit à la santé des gens d'accéder à des soins gratuitement.
Exactement.
Bravo, je pourrais vous dire ça, bravo pour cette lutte-là que vous avez menée aussi avec beaucoup de groupes, comme vous le rappelez. Mais j'aurais envie d'attirer votre attention sur une analyse là, qui a été faite, entre autres, par l'IRIS, qui est un institut de recherche, qui proposait récemment de réinstaurer ou plutôt d'instaurer le salariat des médecins. Et moi, j'ai envie de vous poser la question à vous parce que vous avez été aussi d'une profession libérale qui est la vous avez été pharmacienne et donc c'est pas seulement des salariés, les pharmaciens. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée parce que la majorité des accroissements de budget, là, c'est pratiquement les frais les salaires versés aux médecins. Donc, c'est long comme question, je m'en excuse, mais comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée?
C'est sûr que nous, on dit qu'on doit revoir le mode de rémunération des médecins. Nous avons dit actuellement, il faut geler parce que vous savez qu'il y a encore de prévus jusqu'en 2022 des augmentations astronomiques là, qui ont été étalées par le ministre Barrette, des augmentations qui dépassent, entre autres, pour l'an prochain, le budget total qui a été prévu, l'augmentation. Donc, pour l'ensemble des Québécois, il y a 300 millions qui ont été prévus. Mm-hmm. Et seulement pour les médecins, il y a plus de 500 millions de prévus. Alors, c'est complètement déraisonnable. Là. Ça ne peut pas tenir la route.
Et donc, effectivement, il y a même on parle aussi de 1,6 milliard qui a été promis aux médecins spécialistes et qui a été ventilé dans le budget 2018. Ça veut dire que là, ça va tomber un jour et peut-être que ça va être le temps où vous allez prendre le pouvoir.
Oui, on l'espère parce que définitivement, nous, notre approche, c'est de dire qu'il faut geler ces augmentations là qui ont été promises par le ministre. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que le ministre, d'abord, il les a négociées quand il était président de la FNSQ, donc
ouais,
quand
voilà.
il était de l'autre côté.
Quand il était président de la Fédération des médecins spécialistes.
Et depuis qu'il est ministre de la Santé, il n'a pas été capable de donner des garanties d'accès. Vous savez, quand tu compares avec les autres provinces, en Ontario, on a amélioré l'accès des gens en échange de cet argent qu'on donnait. Au Québec, on n'a pas fait ça. Il n'y a pas eu cette garantie d'amélioration de l'accès.
Ouais. Ça prend la contrepartie.
Là,
ouais. Voilà, voilà.
Écoutez, c'est pour ça que les frais accessoires sont complètement inacceptables.
Et déraisonnables, oui.
Et déraisonnables. Donc, il faut revoir le mode de rémunération. Il faut permettre à d'autres professionnels de poser des actes. Vous savez, la vaccination, là, les infirmières peuvent la faire, les pharmaciens peuvent la faire aux États-Unis, voilà. C'est comme ça partout. Il y a énormément d'activités.
On sent parfaitement bien la vision que vous défendez. Elle se distingue effectivement du Dr Gaétan Barrette. Je vous remercie d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué un peu mieux ce chaos.
Merci, M. Hassett. Merci.
Merci, Diane Lamarre, et députée de Taillon et porte-parole en matière d'accessibilité aux soins plutôt et en soutien à domicile. Quand on se promène de par le monde, on peut trouver parfois quelques obstacles. Et c'est pour ça qu'on a décidé de convier Aube Savard, qui sera notre nouvelle chroniqueuse tourisme, pour trouver le moyen de voyager sans trop de heurts. Bonjour, Aube Savard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Il faut que je vous dise et il faut que je m'excuse en même temps. À votre arrivée au studio, je vous ai pratiquement foncé dessus.
Mais non!
Est-ce que vous croisez des voyageurs comme moi aussi indisciplinés d'habitude?
C'est pas arrivé.
Ah oui? OK. Bon, rassurez-moi, mais vous en êtes bien sortis. Nous sommes sortis indemnes.
Oui.
Tout va bien. Alors, présentez-vous à nous un peu. Aube Savard, pourquoi le voyage? Pourquoi vous venez comme ça vers nous pour parler voyage?
C'est ma grande passion.
Ah ouais?
C'est vraiment ma grande passion. C'est... Dès que je termine un voyage, j'ai envie de repartir aussitôt. Je passerai ma vie comme ça sur les routes.
Ouais.
C'est un mode de fonctionnement où on vit en accéléré. Et donc, on a l'impression qu'on apprend, qu'on apprend, qu'on apprend, qu'on devient une éponge. On découvre tellement de choses en si peu de temps comparé à la vie quotidienne qui est plutôt banale, où on fait métro, boulot, dodo tout le temps. C'est plutôt ennuyant pour moi.
Ah, mais c'est magnifique. Donc, ça veut dire que c'est pour fuir tout ça que vous venez à l'émission nous parler voyage.
Ben oui.
Fuir un peu les obstacles.
Retrouver la passion.
Ben, vive la passion. Donc, Aube Savard, c'est quoi les risques d'obstacles quand on voyage à l'étranger?
Oh mon Dieu.
C'est la grande question quand même.
Oui. En fait, c'est que le souci, c'est qu'on ne retrouve pas les mêmes adaptations et tout ce qu'on a fait pour rendre notre vie plus facile à la maison.
Mm-hmm.
Par exemple, ici, si on est incapable de fonctionner avec le transport en commun, on peut toujours utiliser notre propre voiture qui est adaptée, le transport adapté. Donc, ce sont des services.
On peut
services.
Même appeler un taxi en mode privé.
Oui, mais ça, c'est quand même une chose qui peut se faire à l'étranger, dépendamment des pays.
OK.
C'est sûr qu'il y a des pays où, bon, le tuk-tuk fait office de taxi et là, ça peut être difficile d'y monter.
Oui.
Mais je dirais que c'est principalement ça, comme par exemple les salles de bain. Moi, je trouve que c'est ce qui représente le plus gros obstacle d'une certaine manière parce que tu arrives à l'hôtel, si tu as besoin d'une salle de bain adaptée, si par exemple tu en as une chez toi et que tu ne l'as pas à ton arrivée à l'hôtel, même si tu as pris tes renseignements, oups!
Ouais.
Il y a un petit problème, mais même si la chambre d'hôtel n'est pas adaptée, si tu es incapable de circuler, si le lit est trop haut, que tu n'es pas capable de faire ton transfert puis que tu es en fauteuil roulant, ça pose un gros souci.
Voilà, mais donc, toutes ces expériences-là vont faire que vous allez pouvoir nous aider à mieux voyager, mais j'aurais envie de savoir, c'est quoi les endroits difficiles d'accès où vous avez voyagé, là, peut-être un ou deux, puis pour nous sécuriser, c'est quoi l'endroit le plus facile que vous avez pu voyager? Allez-y, Aube Savard.
Bien, c'est sûr qu'au niveau de l'accessibilité, ce sont les pays en voie de développement qui posent le plus gros problème parce que, bon, là-bas, c'est le chaos et puis ils ne sont pas rendus là dans leur développement. Mm. Donc, il faut se rappeler comment c'était ici il y a une soixantaine d'années.
Okay.
Bien, on a quand même fait du chemin. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais là-bas, c'est un retour dans le temps, en fait.
Okay.
C'est ça qu'on vit. Et puis, c'est chaotique. Donc, si tu as des chèvres, des vaches, 15 motos, 3 voitures, puis que tout ça, ça se promène sur la route en même temps, bien, toi, quand tu veux t'y promener, parce que le trottoir, lui, est encombré, parce que tous les magasins mettent leurs marchandises dehors, souvent, ils n'ont pas de backstore.
Mais c'est beaucoup le transport qui est formalisé dans nos sociétés dites avancées ou en tout cas occidentales, c'est ça?
Oui, on est organisé, en fait.
OK. Mais dites-le pas trop souvent, parce qu'il y a des activistes en transport qui seraient pas très contents qu'on ait ce discours.
Mais ouais, ça dépend toujours avec quoi on se compare. Hein? Là, je parle vraiment des pays en voie de développement. Donc
ouais, voilà.
C'est pas la même chose qu'ici.
Mais comment on se prépare pour ces voyages?
Oh mon Dieu! Je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup se renseigner.
Ouais.
Ça dépend, en fait, du type de handicap qu'on a, de l'importance du handicap et de la limite qui va avec, et aussi de notre stress comme personne à voyager.
Ouais.
Il y a des gens qui veulent se soucier de rien en voyage. Ce sont vraiment dans l'esprit des vacances.
Mm-hmm. Ils veulent être libres. Hein?
Oui, exactement. Ils veulent pas avoir de mauvaises surprises et tout. Dans ce cas-là, ben, il faut vraiment, vraiment bien se renseigner. Il faut demander peut-être des confirmations écrites si on a besoin d'un matériel spécial à l'hôtel, etc., pour s'assurer qu'effectivement, ils ont fait leur devoir et qu'on diminue le risque de mauvaises surprises.
Donc, c'est difficile de partir... Et mon Dieu, que j'ai toutes sortes d'expressions. je vais me contenir. Donc, c'est difficile de partir à Paxac sans organiser ou prévoir
Ça dépend du type de handicap, ça dépend de la limite. Mmh. Moi,
mais vous,
par exemple,
vous êtes pas en fauteuil.
Moi, je ne suis pas en fauteuil. Moi, en fait, j'ai un handicap qui fait que quand je suis à la maison et que ça va bien, c'est une bonne journée, je marche sans mes béquilles.
Mmh.
Dès que je mets le pied dehors de chez moi, j'utilise des béquilles. Et dès que je voyage ou que j'ai à parcourir des longues distances à pied, je prends un fauteuil roulant manuel. Donc, je vis vraiment les trois niveaux de difficulté, si on veut. Donc, ça me donne un petit peu un regard assez global sur toutes les situations. Moi, comme je peux quand même monter des escaliers, bien, c'est sûr que je me retrouve moins bloquée que quelqu'un qui ne peut pas marcher du tout.
En effet, là, vous venez de mentionner l'obstacle qui nous fait tous rager un jour ou l'autre. Écoutez, Aube Savard, ce n'était qu'un aperçu, mais merci de votre passage.
Ça fait plaisir.
On se revoit dans un mois.
Parfait. Génial.
faut toujours savoir se débrouiller quand on est en face d'un écran ou deux ou trois. Mais pour y arriver, on a besoin de conseils judicieux et c'est pour ça qu'on initie aujourd'hui notre chronique techno avec Vincent François, qui est conseiller senior chez Accessibilité Web. Bonjour, Monsieur François.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, aujourd'hui, on s'adresse un peu aux groupes, aux groupes communautaires, aux entreprises, aux personnes qui veulent déployer un site web, mais qui ne savent pas comment le rendre accessible. Alors, est-ce que je me trompe en disant ça?
Non, c'est le bon point de départ, effectivement. Et là-dessus, la première chose, c'est quelle que soit la raison pour laquelle on veut rendre son site accessible, que ce soit pour des raisons légales, parce qu'on nous a dit que c'était obligatoire ou réglementaire, que ce soit pour des raisons d'image de marque, ça fait bien de montrer qu'on est inclusif, etc., ou que ce soit pour des raisons purement commerciales, d'augmenter le nombre de gens qui vont accéder au site web, c'est une occasion de gagner plus ou de toucher plus de gens dans le message qu'on a à transporter. Quelle que soit la cause, donc, d'abord, bravo. C'est une très bonne idée de faire ça. Ça va permettre réellement d'être efficace. C'est du travail assez technique, mais c'est du travail de bon sens. C'est du travail de communication qui va permettre réellement à des gens qui en ont besoin d'accéder aux informations et éventuellement de vendre de plus de bébelles ou peu, quel que soit le service qu'on a offert.
Bon, on comprend bien le besoin, mais pour les gens qui nous écoutent, en quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que c'est l'accessibilité web?
Alors, l'accessibilité du web, c'est l'idée, c'est une démarche de qualité d'abord. C'est s'assurer que, quelles que soient les situations de handicap, qu'on soit avec des problèmes aux yeux, aux oreilles, même au toucher, à la manipulation de la souris, ou qu'on ait des problèmes cognitifs, de compréhension, on soit capable de, un, percevoir l'information, donc que mes oreilles entendent ce que mes yeux ne voient pas, par exemple. Au-delà de la perception, on doit être capable de comprendre ce qu'on a perçu, donc faire du sens avec les informations qu'on reçoit, et une fois qu'on les a comprises, bien sûr qu'on soit capable d'interagir avec, qu'on soit capable d'utiliser le contenu et les formulaires, etc. Et ça, quelles que soient les situations de handicap et quels que soient les outils utilisés, les béquilles numériques qui vont être utilisées par les visiteurs.
Parfait. Vincent François, on a compris le besoin, on a compris plus ou moins en quoi ça consiste. Comment on planifie ça maintenant, la mise en accessibilité d'un site web?
Alors effectivement, la planification est le bon terme pour ça. Une démarche de qualité dans l'industrie, par exemple, ce n'est pas une cerise qu'on met sur le gâteau à la fin. Une fois que la voiture est construite, on ne se dit pas « bon, maintenant, on va la rendre de qualité ». La qualité dans la construction automobile, c'est par exemple le choix des matériaux, de la fonte, de l'acier qui vont être utilisés dans le moteur pour que le moteur s'écrase sur lui-même pour éviter que ce soit les passagers qui absorbent le choc, l'énergie du choc. Donc pareil pour un site web, les questions d'accessibilité et donc de qualité se décident tout le long de la production du site web. Donc, par exemple, il y a des choix sur les contrastes de couleurs. Bon, ben ça, on imagine bien, c'est pas une fois que le site est fini qu'on va commencer à le colorer. Il y a des choix sur la technologie utilisée. Est-ce que notre langage de programmation va permettre de mettre des textes de remplacement associés aux images pour ceux qui ne voient pas? Bon, ben il faut que ça soit dans la base de données, que ça soit prévu.
Donc, il faut y penser d'avance.
Donc, il y a des choix technologiques et il va falloir s'assurer d'abord que la plateforme qu'on utilise, les outils qu'on utilise vont être capable soit nativement de prévoir ces règles d'accessibilité, soit de nous permettre de les programmer, que ce ne soit pas un bloquant. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être s'assurer que dans le design visuel, on a appliqué des règles d'accessibilité. Alors, il existe tout un tas de règles pour les quatre familles de situation de handicap. Et dans le design, il y a des choses qui vont se décider de façon purement visuelle. Est-ce que nos étiquettes de champs de formulaire, par exemple, sont proches des champs? Est-ce que les couleurs, comme je disais, ont été correctement choisies? Est-ce que la présence d'un menu principal est toujours au même endroit? Est-ce que l'ordre des choses est respecté pour ne pas se perdre. Puis après, il y a la rédaction. On va rédiger différents contenus. On va s'assurer qu'ils vont être compris par tout un tas de gens, dont 50% de la population a des difficultés avec l'écrit, par exemple.
Ce qui est important, en fait.
C'est très important.
Je pense que quelqu'un qui déploie un site web aujourd'hui ne peut pas oublier que la moitié de la population présente des difficultés à la lecture.
Oui, mais je pense qu'il y en a qui l'oublient. Et puis, on a encore la tradition de dire, bon, ben, je prends ma brochure et puis je la mets sur le web, en gros. Ouais. Là. Et puis, la brochure elle-même, elle est déjà à copier-coller d'une thèse. Quoi. Donc, il y a ce risque-là. Et puis ensuite, troisième étape, une fois qu'on a des designs, des contenus et puis une technologie qui permet l'accessibilité, c'est de s'assurer d'avoir une structure de notre contenu qui soit accessible. La titraille, les listes, les sous-listes, etc. Est-ce que on a transmis la sémantique de ces choses-là dans notre code source. Donc ça, c'est des réponses que des techniciens peuvent apporter.
Bien sûr, bien
mais
sûr.
Il faut qu'ils connaissent les règles et qu'ils
c'est
les appliquent.
C'est pas cosmétique, c'est comme vous le présentez oui. bien, c'est derrière aussi qu'il faut
c'est ça,
préparer.
C'est des choses qui se voient pas, voilà. mais qui vont s'entendre, qui vont se percevoir, qui vont permettre de transformer correctement dans des situations de handicap le contenu. Et donc, et après ça, il y a une démarche de validation, de contrôle qualité, comme mm-hmm. partout, qui est de dire, bon, ben voilà les règles, et puis est-ce qu'on les a appliquées? Alors là, il y a des petites questions très techniques, puis des questions de gros bon sens.
Mais donc, il y a évidemment un contrôle de qualité presque à la fin, mais il y a autre chose aussi, il y a des tests d'utilisabilité.
Exactement.
Et avant que vous continuiez, oui. j'avais envie de dire aux gens qui nous écoutent mm-hmm. que le canal m.vusezvoix.com, voilà. qui est probablement là où vous vous trouvez en ce moment, a bénéficié des services de M. François. Donc, merci. D'abord,
on a fait des vrais tests avec des vrais utilisateurs qui vont pas au-delà des règles, mais qui permettent de nous rappeler pourquoi on fait tout ça.
Bien. Écoutez, on est très heureux de vous avoir avec nous et le plaisir va croître avec l'usage puisque vous allez nous expliquer toutes ces déclinaisons de l'accessibilité web et de l'accessibilité en général dans ces communications au cours des prochaines émissions. Et donc, Vincent François, vous êtes conseiller senior pour accessibilité web, c'est bien ça?
Accessibilité web n'existe plus, c'est la coopérative que j'ai dirigée. Aujourd'hui, mon nom professionnel, c'est consultation-boréale, comme la bière ou l'éditeur, .com.
Bon, parfait. Alors, on vous retrouvera là aussi. Merci beaucoup, Vincent François.
Avec plaisir.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Réforme ou contre-réforme, c'est une des idées qu'on a pu entendre ce 28 janvier dernier au grand débat de l'ISS avec, entre autres, Mireille P. Tremblay, qui est professeure associée à l'UQAM. Bonjour Mireille.
Bonjour Benoît.
Et il y a aussi avec nous au téléphone le truculent coordonnateur... le truculent organisateur communautaire de la Coalition solidarité santé. Je suis désolé Jacques-Benoît, je vous ai déjà... j'ai déjà vendu la mèche.
Oui, j'aime le mot truculent. Merci, bonjour.
Bonjour. En fait, je veux juste situer les choses. Vous êtes évidemment les deux membres du comité organisateur de l'événement qui s'est tenu le 28 janvier dernier. Mais il faut dire que globalement, vous œuvrez tous les deux dans le domaine, évidemment, de la santé et vous cherchez, je ne sais pas si je dis bien les choses en disant ça, mais vous cherchez à assurer sa plus grande démocratie possible. Est-ce que c'est une bonne manière de vous présenter les deux, de vous réunir?
Exact.
Bon, pour elle, ça va, Jacques-Benoît, qu'est-ce que vous en pensez?
D'accord avec ça, moi.
Bon, OK. Ben c'est bien, j'ai pas des invités qui ont envie de s'obstiner aujourd'hui. C'est excellent. Alors, on commencerait d'abord avec Jacques-Benoît. J'aimerais que vous vous présentiez un peu mieux. Je sais que vous êtes de la Coalition Solidarité Santé. Qu'est-ce que c'est exactement?
La Coalition Solidarité Santé, c'est une coalition provinciale qui regroupe des syndicats, des organismes communautaires, féministes et même religieux. Ça existe depuis à peu près 25 ans autour de ça. Ça défend le droit à la santé et le système public de santé.
C'est important. Système public. Système public. Parce que les gens qu'on a vus le 28 janvier dernier à l'UQAM, le débat de l'Institut Santé Société, ralliait énormément de gens qui ont même été des artisans du système public de la santé. Il y avait même un sous-ministre à la santé qui était là. Il y avait des chercheurs, des chercheuses, des gens du social aussi, dimension très oubliée, semble-t-il, dans ces réformes. Donc, vous êtes tous les deux, ça vous rallie de nouveau, Mireille Tremblay, Jacques-Benoît, des défenseurs du système public de santé.
Oui. Et défenseurs, on travaille dans une perspective tripartite. Oui. C'est-à-dire, on dit, y avait des chercheurs, il y avait des gens du milieu de l'intervention et il y avait aussi des personnes des comités d'usagers.
Bien sûr, donc des
dans
personnes.
Le fond, oui. Donc, on part du point de vue des citoyens, des citoyennes pour voir... quel est l'impact de la réforme du point de vue des citoyens? Bien sûr, les intervenants sont des spectateurs ou des observateurs ou ont une position privilégiée pour voir ce qui se passe. Mais
il ne faut pas oublier les gens qui ont besoin de ces services.
Exact.
Mais on a tous besoin de ces services. Et je reviens à Mireille Tremblay. Vous avez travaillé pendant des années dans le système de santé. Vous avez même été gestionnaire. Vous êtes psychologue de formation. Et un jour, vous avez décidé un peu de débarquer pour embarquer dans la recherche ou faire parler un peu les personnes. J'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que c'est important sur ce qui s'est passé le 28 dernier. Ça dit quelque chose sur vos démarches, votre démarche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Mireille, pour que vous sortiez du système puis que vous vous l'embrassiez ou comme ça de nouveau, différemment?
En fait, c'est un parcours, évidemment, sur plusieurs années. Et j'ai fait un doctorat dans les années 90 sur les conditions de la participation démocratique dans le réseau de la santé des services sociaux. Et je travaillais en planification, coordination des services à cette époque-là. Donc, c'est important. Il y a eu une décennie où on a insisté beaucoup au Québec pour faire participer la population et les différents acteurs à la gouvernance, à l'administration, à l'amélioration des programmes de santé et de services sociaux. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus et je suis devenue, de fil en aiguille, administratrice et directrice de la Fédération des centres de réadaptation en déficience intellectuelle. J'ai terminé mon doctorat et je suis devenue directrice de recherche dans un établissement en déficience intellectuelle.
Il n'y a plus beaucoup de recherches aujourd'hui avec les réformes. Sur la déficience intellectuelle, est-ce qu'il demeure encore des choses?
Il y a encore des instituts de recherche, mais à l'époque, dans les années 2000, il y avait un mouvement pour développer la capacité des établissements de faire de la recherche. Des subventions aux chercheurs d'établissements et tout ce profil-là ou ce système-là s'est effondré en quelques années. Et c'est là que j'ai fait le passage. En milieu universitaire, recherche et enseignement.
Bon. Jacques Benoit, vous êtes à la barre de la Coalition Solidarité Santé. Vous venez peut-être plus du milieu communautaire, mais vous travaillez avec beaucoup de gens qui défendent le système public. Vous, en fait, qu'est-ce que vous faites dans les dernières années? Quel est votre rapport au système de santé depuis quelques années?
Je dirais que, moi, je suis à la coordination de la coalition depuis 2011. Et depuis 2011, on a eu le temps de passer quand même trois gouvernements différents, ce qui est quand même relativement beaucoup en peu de temps.
Voilà.
Quand je suis arrivé, c'était le gouvernement Charest qui était là et qui, si on se souvient bien, nous avions la taxe santé qui existait à ce moment-là, qui avait été mise sur pied par le gouvernement Charest, le ministre Raymond Bachand. Nous avons mené une campagne contre, pour l'abolition de cette taxe santé-là, qui était vraiment inéquitable dans la mesure où c'était un montant égal, peu importe le revenu des gens qui devaient la payer. Ça allait complètement à l'encontre de ce qui base notre système de santé et services sociaux qu'on a mis sur pied il y a plus de 40 ans et qu'on voulait financer à partir de la capacité de payer des gens. Ceux qui n'ont pas de capacité de payer ne devaient pas en fournir plus, et ceux qui avaient plus de capacité devaient en payer plus. Et ça s'appelle utiliser les impôts, les impôts progressifs sur les revenus. La taxe santé à l'encontre de ça, donc on se battait contre ça. Ça ne voulait pas dire qu'on disait qu'il fallait l'abolir et ne pas le remplacer par rien, parce que dans les années précédentes, il y a eu beaucoup de coupures qui ont été faites dans les budgets de la santé, entre autres, et pas juste dans la santé, mais ces coupures de budget-là ont réduit la capacité du réseau public de pouvoir répondre aux besoins des gens, et par conséquent, ça a souvent forcé les gens d'avoir recours au privé pour être capable de trouver réponse à leurs besoins, ou s'ils n'arrivaient pas à trouver, dans le secteur public la réponse à ces besoins-là, ou l'accessibilité était comme pas assez grande. Ça prenait trop de temps pour avoir un service dont ils avaient besoin plus rapidement, et donc ils allaient au privé, ils déboursaient encore de leur poche pour être capables de pouvoir avoir accès à un service pour lequel ils n'étaient pas, ils n'avaient pas accès autrement.
Jacques Benoit, vous êtes un témoin, effectivement, de ce qui s'est passé vers une privatisation de la santé. Vous étiez des gens qui ont participé à ce débat de l'Institut Santé-Société. Et je dirais que, évidemment, tous les deux, vous avez travaillé pendant des années là, pour plus d'accessibilité, pour davantage de compréhension de qui est l'usager au fond, qui devrait être au cœur de tout ça aussi. Mais j'ai envie de revenir un petit peu en arrière à ce débat-là. en juin dernier, dans Le Devoir notamment, mais ailleurs aussi, une lettre a circulé et c'était signé par plusieurs ténors de la santé. Bon, Mireille, vous en étiez, mais il y avait toutes sortes de chercheurs qui étaient présents, des gens qui ont eu des postes importants en santé aussi, qui étaient présents lors de ce débat. Et en substance, on dit, s'il vous plaît, ça prendrait un moratoire pour toute ou pour cette réforme. Il faut arrêter ça maintenant. C'était il y a un an. Partons de là, si vous voulez bien. Bon, pas un an, juin dernier. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant, là? Est-ce qu'on a besoin d'un moratoire? De quoi on a besoin en ce moment?
Il y a un enjeu politique extrêmement important. C'est que la population, les citoyens, on n'a aucune information sur ce qui est en train de se passer. Il y a une espèce d'omerta. Quand on a préparé le colloque, on a sollicité certains chercheurs, certains cadres supérieurs d'établissement, des directeurs, qui nous disent « on ne peut pas parler, on trouve ce que vous faites intéressant, mais on ne peut pas se présenter, on ne peut pas prendre la parole en public ». Un des constats importants de la journée, c'est qu'on n'a pas d'informations sur l'impact de la réforme.
Ouais.
Le mot d'ordre, on nous a dit que le mot d'ordre dans les établissements, c'est « tout va bien ».
Oui, et c'est pire encore, c'est pas seulement les chercheurs qui ont une belle tête, qui cherchent un peu sur le bien commun, ou même les syndicalistes. Il y avait même des représentants des cadres qui étaient là et qui disaient « nous ne sommes pas consultés ». Certains ont même dû en recourir à la justice pour avoir de l'information. Il n'est pas possible de savoir exactement l'impact de la réforme. C'est le constat, c'est un des constats importants de votre colloque, c'est ça?
Oui, et que les gens qui ont tenté d'avoir de l'information, autrefois sur le site du ministère, c'était relativement transparent. On pouvait même avoir, à un moment, il y avait un dossier qui disait le nombre de personnes qui attendent à l'urgence.
Oui.
J'ai déjà vu ça.
Oui, bien sûr.
Alors, on avait l'information sur le budget, sur les programmes, le financement, sur le personnel. Actuellement, il y a toutes sortes de rumeurs qui courent. La situation est très propice à ça. Le silence, c'est ce que ça génère. Qu'il y a beaucoup de démissions, qu'il y a beaucoup de maladies. Congé de maladie, on a entendu une personne sur cinq dans le SUS de Mauricie Boisfranc. Il y a une désagrégation du système de santé. Les gens à l'intérieur ne comprennent pas ce qui se passe. Puis les citoyens ne sont pas informés non plus. Donc, il n'y a pas d'information publique, plus d'informations disponibles au ministère. Je ne sais pas comment les médias peuvent accéder à quelle information. Ce qui est intéressant, quand on a sollicité des chercheurs ou des personnes ou des intervenants, des associations, pouvez-vous, on leur a demandé, faire un bilan de l'impact de la réforme. Ils nous ont dit, on a une lecture très spécifique à partir de nos membres, de notre expérience ou de notre propre réseau, mais on n'a aucune lecture transversale. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est par le croisement des témoignages des différents groupes d'acteurs de constituer une lecture qui confirme ce qu'on se raconte dans nos salons. C'est que c'est très autoritaire. Quelqu'un a évoqué la notion de dictature.
Oui, oui, parce qu'en fait, il n'y a aucune rétroaction ni auprès de l'usager, c'est ce que vous disiez, ni auprès des professionnels, oui. De moins en moins avec les chercheurs et même pas avec les cadres. Donc, au fond, ça se décide qu'en haut, tout ça.
Exact.
Écoutez, on va revenir avec les solutions qui ont été dégagées un peu, ou à tout le moins les voies d'avenir qui ont été dégagées.
Mais,
oui, justement, Jacques Benoît.
Juste pour dire, c'est quand même assez aberrant. Ce gouvernement-là, quand il a été élu, souvenons-nous un peu, le premier ministre avait fait de si belles déclarations à l'Assemblée nationale. Comme il serait le gouvernement de la clarté, de l'ouverture. Ce serait le gouvernement qui permettrait que l'information circule. Il serait comme, mon Dieu, on n'avait pu tout lire ce qu'il s'apprêtait à faire et tout ça. Pourtant, s'il y a un gouvernement qui actuellement bloque l'accessibilité aux données qui nous permettraient de pouvoir analyser correctement ce qui se passe, ben c'est ce gouvernement-là. Damien Contant-Derio-Pouzos, qui est chercheur à l'Université de Montréal et qui mène souvent des études comme ça approfondies à partir de données, a toutes les difficultés du monde à avoir accès aux données probantes qu'il pourrait trouver sur à la RAMQ. On ne lui donne pas accès aux données. Et conséquemment, si tu n'as pas des données, comment veux-tu être capable de faire une évaluation qui soit solidement appuyée et qui vraiment puisse donner leur juste? Hein?
Oui.
Et le ministre, pour lui, ça semble pas trop l'énerver, cette affaire-là. Hein? Je sais pas.
Ben voilà, c'est parce
de toute façon, il a déclaré que il faudrait attendre la fin de sa réforme dans quelques années pour vraiment l'évaluer. Ben oui, bien évidemment, une fois, quand tu as tout démoli, là, puis que tu as mis le feu partout, puis que tout l'immeuble a brûlé, puis qu'il est rasé, quand c'est fini, là, c'est sûr que là, tu peux dire qu'il y a eu un feu.
Mais... Donc, écoutez, avant que vous transformiez en pompiers tous les deux, Mireille Tremblay, Jacques Benoît, quels seraient brièvement, en une minute, les constats que vous auriez faits et plutôt les jalons d'avenir suite à ce colloque-là?
Mentionner aussi que les comités des usagers ont peu de pouvoir, pas d'accès à l'information, oui. Qu'eux autres ont peur, que l'accès au conseil d'administration est plus possible. On ne sait plus quand est-ce que les réunions qui devraient être publiques se tiennent. Que tous, il y avait quelque chose comme 300-400 membres de conseil d'administration représentant l'ensemble de la population. Dans les différents établissements autrefois, il reste 27 établissements avec une dizaine de membres. Donc, vraiment, toutes les places. Toutes les places, bien moins que ça. Alors, toute la place que pouvaient occuper les usagers maintenant a disparu. Et même les personnes qui veulent faire des plaintes en centre d'accueil, ils ont peur de représailles.
Oui. Donc, puis les comités de résidents ont un statut particulier. Hein? Puis il n'est pas facile déjà. Les pouvoirs sont limités pour les comités d'usagers. Ben, ce que j'ai entendu dans votre colloque, c'est que les comités d'usagers ont peur de tout perdre maintenant.
Exact.
Écoutez, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine avenir? Pour la prochaine avenir? Hé là là, c'est pessimiste. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis désolé. C'est subtil, mais pessimiste. Je m'en excuse. Mais non, pour se donner de l'espoir, là, quel devrait être le rôle de ces gens qui ont participé et qui ont envie de continuer à travailler à l'avancement de la santé?
On a constitué une délégation tripartite avec des personnes représentant les usagers, les intervenants, les chercheurs, dont Jacques Benoît.
Voilà.
Et on a constitué une délégation de personnes volontaires pour identifier un plan d'action, mais il y a une vingtaine de recommandations qui ont été énoncées. Beaucoup tournent autour aussi de l'information. Donc, accéder à l'information, former les gens, les citoyens à prendre place, à prendre la parole, informer, solliciter les médias pour que la population soit en mesure de comprendre ce qui se passe. Donc, on veut vraiment créer... On a parlé même d'une mouvance. Donc, prendre en main... Si on ne surveille pas... Il y a quelqu'un qui a mentionné ça. Si on ne surveille pas les gens qu'on élit, ben, ils vont gouverner sans nous.
Et même, je pourrais rajouter, la citation, c'est « Si on ne s'organise pas, on va se faire organiser. »
Exact.
Écoutez, allez-y, Jean.
Le premier accès à l'information, vous savez, hein, c'est... oui, bien sûr, on parle d'accès à l'information, accès aux données et tout ça, mais le premier accès à l'information, là, je devais mettre avant toute chose, là, c'est l'accès de la population à l'information que nous possédons. Mm-hmm.
Voilà.
Même si on n'en a pas beaucoup d'informations, même si on n'a pas beaucoup de données, celles que l'on a sont déjà extrêmement inquiétantes.
Ouais.
Et cette information-là, ces données-là que nous avons, la population ne les a pas. La population a accès à seulement ce que le ministre déclare et ce que tous les médias répètent ad nauseam, sans nécessairement poser plus loin de questions ou de réflexions ou d'analyses.
Ben, heureusement qu'on vous a tous les deux. D'ailleurs, on peut lire Mon œil, hein, cette publication qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, notamment rédigée par Jacques Benoît de la Coalition Solidarité Santé. Merci d'avoir été avec nous, Jacques Benoît.
Merci à vous.
Mireille Tremblay, chercheuse, professeure associée, aussi présidente de l'Observatoire sur la démocratie au Québec. Merci beaucoup, Mireille Tremblay.
Merci à toi, Benoît.
On vous suit. Martin Forgue, tâte pour une fois. une chronique qui va revenir et qui nous fait regarder les choses un peu autrement. Alors, on parle film coquin, si je comprends bien, Martin Forgue.
Sujet très épicé pour cette heure de lunch. On parle de porno pour aveugles. Donc, ça peut sembler pour le néophyte extrêmement inusité, mais c'est un service qui existe depuis au moins le milieu des années 2000. Donc, on parle d'une bonne dizaine d'années. Mais pourquoi on en parle? C'est que depuis quelques mois, le site pornographique Pornhub a rendu disponible un service de vidéo description pour ces vidéos pornographiques, toutes catégories confondues. Et évidemment, ça peut exciter évidemment les personnes non-voyantes qui seraient tentées, qui se laisseraient aller à la tentation de visionner des vidéos pornographiques. Et maintenant, c'est chose possible, mais ce n'est pas évidemment sans anicroche, ce n'est pas sans petits accros techniques, parce qu'évidemment, ce n'est pas très évident. On peut le deviner lorsqu'on est non-voyant de regarder, de se titiller devant ce type de matériel. Et on évoque évidemment, bon, parce que la vidéo description, ce n'est pas du doublage, on ne fait pas nécessairement appel à des comédiens, donc au niveau du jeu, souvent ça laisse à désirer, ça peut être très très froid comme description.
Faudrait quand même pas que ce soit Siri qui le fasse. Hein.
Non, ce serait encore pire. Hein. On peut s'imaginer de quoi ça aurait l'air avec la voix un peu robotique de Siri, mais on n'est pas tout à fait loin de ça. Évidemment, bon, quand on décrit un homme et une femme qui se dévêtissent, on essaie de décrire la scène et ça refroidit un peu les ardeurs. Parfois, ça refroidit un peu l'atmosphère, comme je le disais. Et évidemment, tout ça est à perfectionner. Et on peut deviner que dans les années à venir, mais ça devrait se réchauffer.
C'est un premier rendez-vous avec Martin Forgue. Et je dois avouer que c'est un des rendez-vous les plus heureux grâce à votre capacité de décrire les choses que j'ai eues depuis les 20 émissions.
On prend un grand verre d'eau froide maintenant.
C'est toujours heureux de voir l'art avec sa tête, avec ses yeux, mais c'est peut-être impossible sans l'accompagnement indispensable de personnes dévouées, à la fois altruistes et amoureuses de l'art. On a avec nous Nicole Le Trudeau, qui est accompagnatrice bénévole au Musée des beaux-arts de Montréal. Bonjour, Madame Trudeau.
Oui, bonjour, monsieur.
Merci d'être avec nous. Alors, avant qu'on présente un peu ce que vous faites, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que c'est exactement l'accompagnement en musée.
Écoutez, je vais peut-être faire une petite précision, c'est-à-dire que je ne suis pas une bénévole qui fait de l'accompagnement au musée comme tel. Je suis une amoureuse de l'art.
OK, oui.
Et disons que j'ai travaillé, ou en tout cas j'ai toujours essayé de convaincre les musées de nous accueillir dans leurs murs, ce qui n'était pas nécessairement évident.
Je dirais
plus une personne de cause qu'une bénévole. C'est-à-dire, je n'ai pas de statut comme bénévole comme tel.
Mais vous travaillez entre autres au Musée des beaux-arts de Montréal, pardon.
Je ne travaille pas dans le sens formel.
Non, vous êtes bénévole, bien sûr.
Je suis impliquée.
OK.
Ils ont beaucoup. Alors,
merci de ces précisions. Écoutez, je me rends compte effectivement qu'il y avait beaucoup de choses à débroussailler dans ce secteur.
Ah,
c'est assez nouveau. Donc, comment vous vous êtes engagé? En fait, depuis combien de temps vous êtes engagé dans cette voie?
En fait, moi, comme je vous disais, j'ai toujours été passionnée par l'art en général. ben, l'art visuel aussi. Et depuis toujours, j'essayais de fréquenter les musées, de trouver une formule pour avoir une personne pour m'y accompagner, pour me décrire les œuvres. Mm-hmm. Mais disons que ça a pris du temps avant que ce désir soit comme reconnu ou trouvé peut-être normal par l'institution. Mais j'ai toujours persévéré, j'ai fait beaucoup de contacts avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, entre autres, mais pas uniquement, il y a eu aussi le Musée d'art contemporain. Mais là, depuis quelques années, je dirais que s'est produit un petit miracle là au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est-à-dire qu'on pouvait quand même quelquefois, à force de demander, de former des groupes, d'obtenir quelqu'un pour nous présenter les œuvres, hein, pour nous les décrire et tout. Mais depuis 2015, le Musée des Beaux-Arts de Montréal a mis sur pied un programme, et j'insiste sur le mot programme, parce que là, à ce moment-là, on peut dire que c'est le musée qui vient à nous plutôt que nous qui allons forcer la porte du musée.
Okay.
Et ce programme consiste en deux visites dédiées à la clientèle des malvoyants et non-voyants, deux visites par mois, régulièrement.
Ah, bien.
Donc, le deuxième mardi de chaque mois, il y a une visite pour la clientèle des non-voyants et malvoyants, dans la collection, l'exposition temporaire. Actuellement, c'est Chagall qui vient de commencer.
Oui.
Et le troisième mardi de chaque mois, il y a toujours une visite dans une section de la collection permanente. Alors ça, c'est régulier. Il n'y a rien d'anormal. On n'est pas obligé d'aller insister, demander. Ça fait partie de ce que le musée nous offre.
Donc, si je pose bien les choses, il y a ces rencontres dédiées aux personnes aveugles et malvoyantes deux fois par mois, mais de manière générale, on peut peut-être solliciter l'accompagnement de quelqu'un en dehors de ces plages. Est-ce que c'est ça?
Ça, c'est un petit peu plus délicat.
C'est plus
moins
difficile?
Officialisé. Je ne vous dirais pas que c'est aussi simple. Avant, c'est plutôt, on fallait organiser des groupes. Maintenant, peut-être qu'on peut demander, mais je pense qu'il faudrait d'abord peut-être profiter de cette opportunité parce qu'il y a eu aussi une formation de la part du musée, à laquelle d'ailleurs j'ai collaboré, pour évidemment faire comprendre comment on explique les tableaux, les œuvres d'art. Il faut procéder de façon beaucoup plus descriptive. Il y a une certaine démarche à suivre pour permettre à la personne non-voyante de pouvoir reconstituer le tableau dans son esprit.
Oui.
Alors, c'est sûr qu'il y a un rythme qui est différent. Il y a le temps qu'il faut prendre et puis l'ordre et il y a tout un vocabulaire et tout. Alors, il y a quelques guides, des guides qui étaient intéressés, ont participé à cette formation.
Okay.
Et ce sont ces guides-là qui, disons, prennent en charge les deux visites mensuelles. On demande aux personnes non-voyantes, par contre, qui s'inscrivent, on doit s'inscrire à pour chacune des visites, de venir avec un accompagnateur voyant pour, bon, simplifier les déplacements dans le musée et tout ça.
Heureux. Et comment on fait, Mme Trudeau, pour s'inscrire, pour participer à ces deux rencontres?
Alors, on téléphone au Musée des Beaux-Arts de Montréal, à la section, on parle à la section éducation.
Bien.
Et là, on dit, bon, voilà, je suis intéressée à la visite, comme la prochaine visite, par exemple, qui est dans Chagall. Alors, c'est le 14 février. Donc, les gens s'inscrivent au moins une semaine à l'avance, donnent leur nom. Et voilà, c'est aussi simple que ça.
C'est très simple. Écoutez, on va même ajouter le lien vers le site web sur notre page, la page de l'émission. Je vous remercie infiniment de nous avoir sensibilisés. Merci pour votre passion pour l'art, Nicole Trudeau.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au revoir.
Alors, c'est ce qui met fin à notre émission. Elle fut rock'n'roll, comme disait un certain, mais il faut continuer de la faire et c'est grâce à une équipe magnifique, Martin Forgue à la recherche, Christiane Campagna en communication, Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde. Les gens qui ont défilé ici tour à tour, il faut les saluer puisque ce sont des gens engagés, très heureux. J'ai senti la passion de tout le monde aujourd'hui. Diane Lamarre, députée de Taillon, qui est porte-parole en matière d'accessibilité en santé et en soutien à domicile. Aube Savard, Bouchard, chroniqueuse tourisme, femme extraordinaire, passionnée, qui va nous parler à chaque mois, espérons-le, de voyage. Vincent François, notre chroniqueur techno, et Mireille Tremblay, Jacques Benoît, tous les deux, ensuite du débat de l'Institut Santé-Société sur la réforme en santé. Donc, il faut les surveiller, puisque... il y a des choses qui s'en viennent. Moi, j'ai entendu parler peut-être d'états généraux, de communication, de recherche d'évaluation citoyenne. Enfin, tout ça, c'est très important si on veut s'assurer de la santé de notre système de santé. Ici Benoît Racette. On se reparle la semaine prochaine en espérant ensemble faire un véritable accès libre.